Après la mort et la résurrection de Jésus, donc le jour de la Pentecôte, lisons-nous au début du livre des Actes. Les disciples de Jésus sont tous remplis du Saint-Esprit et l'un d'eux, il y a une foule qui s'assemble et l'un d'eux se lève et prononce un discours devant les personnes présentes. Et il présente Jésus. Dieu, dit-il, l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David, donc dans le livre des Psaumes, il va citer un texte qui a 1000 ans d'âge. David dit de lui, dit de Jésus en l'occurrence, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici, aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Premier texte, et puis un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 17 cette fois-ci, ce sont les voyages de l'apôtre Paul et de ses compagnons, un messager de l'Évangile. Une fois arrivé donc dans la ville de Bérée, l'apôtre Paul et ses compagnons se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique, ça c'est l'étape d'avant, et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. De texte, j'y reviendrai plus tard. Je vous propose de nous arrêter sur une question que j'ai annoncée, que j'évoquerai. Donc c'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit, la Bible et nous. Ou plus précisément, le Saint-Esprit au moment où nous lisons la Bible. Comment ces trois réalités s'articulent, ces trois dimensions s'articulent-elles? Comment Dieu parle-t-il au travers de la Bible? Comment Dieu œuvre-t-il en nous au moment où nous lisons la Bible? Comment est-ce que je devrais, entre guillemets, me positionner au moment où j'ouvre la Bible pour que je sois à l'écoute de Dieu vraiment, pour que son esprit m'habite, agisse? Quand est-ce que l'esprit agit? Quand je suis devant la Bible. Et par exemple, pour illustrer, est-ce que je dois me servir de mon intelligence? Ou bien, surtout, le moins possible? Est-ce que je dois surtout me mettre en prière? Est-ce que quand le Saint-Esprit parle, je le sais parce que je le sens? Parce que j'ai une impression intérieure très, très nette, très distincte, très forte, qui s'impose un peu à moi. Et puis là, je sais que le Saint-Esprit qui parle, que c'est le Saint-Esprit qui parle. Je force un peu le trait, j'espère ne pas être irrévérencieux ou le paraître, mais peut-être ça se produit parfois. Est-ce qu'il y a certains mots qui tout d'un coup apparaissent comme un petit peu en lettres de feu sur les pages de ma Bible et je comprends alors que c'est pour moi? Et si oui, et si ça se passe comme ça, si ça doit se passer ordinairement comme ça, eh bien, quand il n'y a pas ça, qu'est-ce que je dois en conclure ? Alors, je commence par deux remarques. Je suis frappé, en me posant la question, de constater deux choses. Et la première, et je vais être un peu cash, c'est que j'entends souvent ceux qui disent répondre à ces questions, avancer un discours, mais qu'en fait, je ne vois pas dans la Bible. Et pire encore, à mes yeux, le discours semble énoncé et semble accueilli, un peu comme s'il allait de soi. Et c'est, je me dis que c'est comme si apparemment on ne s'était pas posé la question, mais la Bible, elle en dit quoi ? Et j'y arrive du coup, parce que la deuxième chose, c'est que je crois que si on se pose cette question, eh bien, on aurait de la peine, à mes yeux, à trouver dans la Bible des éléments très explicites à ce propos. Parce que la Bible me semble très, très discrète à ce propos. Je redis, je m'explique. Posons à la Bible la question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle posture avoir au moment où j'ouvre la Bible pour être à l'écoute de Dieu, pour laisser son esprit agir en moi ? Donc, arrivons avec cette question, ouvrons la Bible et cherchons un chapitre. Cherchons un passage biblique qui se pose cette question et qui nous dit quelque chose comme « Mais au moment où tu te mets à l'écoute de Dieu, de l'esprit, de la Bible, eh bien, voilà, étape A, étape B, étape C. » Trouvez-moi, qu'on me trouve un passage biblique qui aborde cette question de front et qui nous donnerait des comportements à suivre et des comportements à éviter. Et je dis que personnellement, je n'en vois pas. Voilà, mais je me trompe peut-être. Que l'on me dise où les auteurs bibliques, et surtout du Nouveau Testament, mais pas que, se posent cette question et nous enseignent des pratiques très spécifiques à propos de ça. Et c'est pour ça que je reviens sur la première remarque, c'est du coup, comment est-ce que nous pouvons prétendre le savoir ? Celui qui sait, il le sait à partir de quoi ? Il se base sur quoi ? Et là, quand je dis savoir, c'est savoir au sens je sais, parce que je vois que Dieu dit ça. Et donc, du coup, je peux dire que je le sais. Donc, je pourrais m'arrêter là. Non, c'est une blague, ça. Parce que je peux vous dire que je ne prétends pas, en m'écoutant, ne croyez pas que je prétende le savoir. Je vais m'en tenir à vous dire ce que je crois, à partir de ce que je crois voir dans certains textes, comme ceux que j'ai lus tout à l'heure, mais je les garde pour tout à l'heure vers le futur. Et ce sont des textes qui, en fait, parlent d'autre chose. Le discours du livre des Actes, c'est pas un discours à propos de comment on doit lire la Bible. On parle de Jésus. Mais ces textes, me semble, font entendre quelque chose de pertinent pour nous. Alors, parce que je vais vous dire ce que je crois, je fais le choix de le dire en ces termes, je crois. Et la formule va, en fait, je vais l'employer avec deux niveaux d'intensité différents. Je vais la dire parfois pour dire des choses que je voudrais affirmer de manière résolue, et notamment ce que je vais dire tout de suite après. Et puis je vais aussi dire je crois, mais pour des choses que je crois. Je crois que, mais bon, voilà, ça me semble davantage discutable, davantage de l'ordre des propositions personnelles. Mais voilà ce que je crois, et puis je vous en fais part, simplement. Et allons-y tout de suite. Je crois tout d'abord, et là je le crois de manière résolue, que comme le dit ce passage de l'Écriture, alors c'est Paul qui écrit à Timothée, hein, « Reste attaché à tout ce que tu as appris, tu sais qui depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. » Pour enseigner. Je crois que toute la Bible est inspirée et soufflée. Il faut inspirer, on a l'impression de quelque chose qui on prend le souffle intérieur. Mais le texte biblique dit plutôt souffler, propulser, porté par l'Esprit de Dieu. C'est le verbe qui est employé dans le livre des Actes au moment du voyage de Paul sur la Méditerranée, et le bateau est emporté par un souffle incontrôlable par les marins. Donc la Bible est soufflée et insufflée par l'Esprit de Dieu. Donc quand on lit ici le mot inspiré, n'entendons pas le mot inspiré au sens où ce matin, j'ai eu une parole inspirée tout d'un coup, j'ai dit je sais pas trop quoi, mais achète plutôt ce produit-là. Ou bien l'artiste même qui fait une œuvre dont il s'étonne lui-même, ou le poète. Donc, on parle parfois là d'inspiration, ça c'est un film inspiré, mais même ça c'est insuffisant. Il faut vraiment entendre ici ce mot au sens où les paroles qui sont là sont des paroles provenant de Dieu lui-même, qui sont portées par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Christ lui-même. Et ça, je m'y suis attardé une fois précédente, donc je n'y reviens pas en détail. Sinon, pour insister et pour nous faire sentir qu'en ouvrant la Bible, le lecteur n'ouvre pas un bouquin comme un autre. Là, j'ai pris la Bible et puis après j'ai pris Agatha Christie. J'ai préféré Agatha Christie, ça m'a moins. Non, je dirais même le plus incroyant, le plus rebelle, le plus sceptique, se met en contact avec une parole spirituelle. Il se met au contact avec quelque chose qui vient, je crois, de l'Esprit de Dieu. Et à ce titre, après, quoi qu'il en fasse, quoi que la personne fasse, qu'après elle jette la Bible aux orties, ou qu'après elle se dise, ouais, là, il y a quelque chose qui fait écho en moi, que la personne la respecte la Bible ou commence à la mépriser, je crois qu'ouvrir la Bible n'est pas un acte anodin. Il s'y joue là quelque chose de spirituel. Il se produit là d'emblée une interaction avec l'Esprit. Et ça, qu'on en soit conscient ou non. Je fais une petite parenthèse pour prévenir un malentendu. Avant de passer à la deuxième chose qui sera le point essentiel, je crois aussi que l'Esprit de Dieu n'a pas forcément besoin de la Bible. Qu'on en ait une, il n'a pas besoin nécessairement qu'on en ait une, il n'a même pas forcément besoin qu'on sache lire pour nous toucher et s'adresser à nous. Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays. Ben Abraham n'a pas, enfin je pense pas, j'en sais rien, on n'était pas sur place, donc. Mais je pense pas. J'imagine plutôt que ça s'est passé autrement que par du papier. Le papier, c'est sûr, parce que le papier, c'est le 12e siècle de notre ère. Donc. Non, bref, c'est plutôt. On s'en fiche. Donc, Abraham n'avait pas la Bible, mais Dieu lui a parlé, quand même. Ça me permet de préciser que proposant ce que je vais vous proposer, je ne cherche pas à couvrir tous les cas de figure. Je m'intéresse vraiment à cette situation très très spécifique. De notre lecture de la Bible quand on sait la lire, quand on sait lire. Et je m'intéresse à la façon dont les choses se passent, je dirais, ordinairement, dans ce cas-là. Et j'insiste vraiment sur le mot « ordinairement ». Autrement dit, si vous avez fait l'expérience, si ça vous est arrivé, je ne sais pas, que tout d'un coup vous lisiez la Bible, puis en lettres de feu, il y a quelques lettres qui sont apparues de manière... Si le Saint-Esprit s'est manifesté comme ça, ma foi, je peux rien dire. Libre à lui. Mais ça échappe à mon propos, ça échappe à ce qui me paraît ordinaire, en tout cas. Donc j'en viens à ce que je vous propose. Je vais d'abord dire ce que je crois, et puis expliquer dans un deuxième temps pourquoi je le crois. Donc je crois ensuite, et je crois surtout, mais que l'Esprit agit ordinairement, de manière que je qualifierais de non-isolé, de non-isolable. Je m'explique. Autrement dit, je crois qu'ordinairement, l'Esprit agit en se servant de tout ce qui nous compose, individuellement, et ce qui fait les interactions les uns avec les autres. Et que je ne vois pas forcément quand c'est l'Esprit là qui agit et quand il n'agit pas. Je vais le redire de différentes façons. En disant ça, j'écarte en fait deux perspectives. J'écarte celle qui s'attendrait ordinairement à une espèce d'action très, très sensible de l'Esprit. Là, je sens distinctement que c'est l'Esprit qui me parle. Et j'écarte aussi celle d'une action qui serait de l'esprit, qui serait sensible, qui serait en dehors de toute médiation, de toute qui se passerait de l'intelligence, qui se passerait de nos apprentissages humains ordinaires, qui se passerait par exemple de l'usage du dictionnaire ou bien de commentaires bibliques ou autre chose, peu importe. Je redis, autrement dit, j'écarte pour l'ordinaire la mise en valeur d'une espèce d'illumination intérieure qui s'imposerait dans le cadre d'une relation où c'est juste moi, le Saint-Esprit et la Bible, au point même d'ailleurs que la Bible, on pourrait même s'en passer complètement. Une espèce d'illumination directe où le reste ne serait pas, non seulement ne serait pas utile, mais n'aurait pas vraiment de place, au fond, n'aurait pas droit de cité. Et ça serait l'attitude, par exemple, qui pourrait dire, ben, j'ouvre ma Bible, ça tombe sur Jonas 1, verset 1. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. Et à ce moment-là, je me dis, le texte me dit que je dois aller prêcher l'évangile à Chassieux. Quand le texte dit déjà à Jonas, pas à moi, d'aller à Ninive et pas à Chassieux, et où d'ailleurs Jonas, je ne sais pas si vous le sentez, mais Jonas ne va pas prêcher ce que nous appelons l'évangile, puisque le texte, alors déjà ça s'est passé avant la mort et la résurrection du Christ, donc l'évangile concernant le Christ, ça va être difficile, et puis qu'en plus là il est envoyé pour prononcer des menaces contre la ville. Alors l'évangile met aussi en garde, mais c'est pas que ça. Donc du coup, j'écarte une perspective qui irait jusqu'à dire, mais ce texte me dit d'aller à Chassieux, et peu importe ce qu'il dit Jonas, mais ça on s'en fiche. Non. Moi non, en tout cas. Ce que je crois, je le dis dans l'autre sens, positivement, c'est que l'esprit agit ordinairement, j'insiste sur ordinairement, en se servant de nos facultés ordinaires et en passant par elles. Et l'esprit agit déjà en se servant, je suis dans la lecture de la Bible, hein, en se servant de supports physiques ordinaires. La Bible, je ne vais pas m'habiller avec moi. C'est ce qui peut m'être à juste titre reproché en étant devant vous pour d'autres. Voilà, mais bon. L'esprit se sert du papier de nos Bibles. Il se sert des lettres de l'alphabet. Il se sert du fonctionnement d'une langue. Il se sert des mots, il se sert du sens des mots. Il se sert de notre capacité à lire, à notre capacité de réfléchir. Ce que je veux dire, c'est pas une démarche qui est à 100%, qui pourrait être à 100% désincarnée, qui pourrait être complètement mystique, si je puis dire. Et bon, je dis ça aujourd'hui, mais c'est un vieux débat tout au long du christianisme. Et j'ai été touché, intéressé de lire un texte de Saint Augustin, si vous voulez, au 5e siècle de notre ère, qui propose, c'est un des premiers ouvrages dont on ait la trace, dont on ait des restes, enfin on l'a même intégralement, qui propose des repères pour lire la Bible. Il dit, voilà, je vous donne quelques pistes pour lire la Bible. Et il débat déjà avec des personnes qui, pour le coup, ces personnes-là en tout cas, invitées à dépendre uniquement du Saint-Esprit, et pour qui tout le reste, ce qu'écrivait Augustin, mais c'est du bavardage, ça n'a aucun intérêt spirituel. Et Augustin écrit la chose suivante, hop, voici comment je dois calmer leur excitation. Bon. C'est à juste titre, sans doute, qu'ils se réjouissent d'avoir reçu de Dieu un grand don. Parce que ces personnes parlent de leur expérience. Ils disent, dans mon expérience, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Ok. Mais Augustin rajoute, qu'ils se souviennent cependant que c'est par l'entreprise des hommes que, par exemple, ils ont appris l'alphabet. Et là, il y a quelque chose qui me paraît à entendre. Autrement dit, je crois qu'ordinairement, l'esprit se conjugue, se mêle à, se sert de tout ce qui nous compose. Il se sert de notre connaissance, de l'alphabet. Il se sert du fait que nous sachions déchiffrer, que nous sachions parler une langue, au moins un minimum. Et j'ai envie de vous poser la question, mais est-ce que vous y avez déjà pensé, si vous n'aviez pas appris une langue, comment ça se passerait à l'intérieur? Comment pourrions-nous comprendre, percevoir le monde extérieur sans une langue? Comment est-ce que nous pourrions penser? Qu'est-ce que nous serions? Autrement dit, je vous pose la question comme ça, qu'est-ce que c'est la vie d'un sourd, muet, aveugle, intérieurement? Alors il y a des situations, il y a au moins deux situations, l'histoire de Marie Hurtin, je ne sais pas si vous la connaissez, et puis l'histoire, je crois, c'est un film après, mais je ne sais plus la personne originellement, Miracle en Alabama. Comment parler, rencontrer quelqu'un qui ne peut ni voir, ni entendre, et puis sourd, muet, aveugle, enfin vous avez compris. C'est quoi sa vie intérieure? Qu'est-ce que nous sommes sans langue pour mettre des mots sur ce qui se passe? Bref, je vous laisse réfléchir. Non, l'esprit s'appuie sur notre connaissance d'une langue. Et d'ailleurs, même d'où que nous vienne cette langue, même si notre instinct était un athée convaincu ou un sataniste absolu, excusez-moi, je force le trait, mais l'esprit se sert de l'apprentissage de cette langue que cette personne nous a transmise. Donc, je vais le dire de manière négative, je ne crois pas à une espèce de fracture de principe entre l'esprit, ce qui serait l'esprit de Dieu, et le reste. Je ne crois pas qu'on puisse baliser un endroit où on pourrait dire, eh bien là c'est l'action de l'esprit, de ce côté-là c'est l'action de l'esprit, et là, par exemple, quand on commence à utiliser son intelligence, ben là c'est plus l'esprit, là c'est pas possible. Et d'ailleurs, franchement, sans même mettre l'esprit dans l'équation, je me dis, comment, je ne sais pas, comment on pourrait tracer une frontière, par exemple, entre les moments où on utilise l'intelligence et les moments où on s'en passe. Alors peut-être le geste instinctif, si quelqu'un nous touche, là on a, ça va plus vite. Mais l'intelligence, je ne sais pas la débrancher. Je ne sais pas dévisser ma tête quand je rentre dans la salle de culte et puis on la met là, parce que là maintenant on est dans le spirituel. Je ne sais pas faire ça. Alors a fortiori, même chose quand on parle de l'esprit, mettre l'esprit d'un côté et l'intelligence de l'autre, mais comment on peut faire? Pour l'action ordinaire de l'esprit, je crois de la continuité, à de la superposition. Je veux dire, je ne sais pas comment il pourrait y avoir une frontière étanche entre l'œuvre de l'esprit et la réflexion, par exemple. De même, entre l'œuvre de l'esprit et la sensibilité. Quand je lis la Bible, tout simplement, quand je me mets à l'écoute de Dieu par la Bible, mes sens sont là, je tourne les pages physiquement, les pages de papier, je regarde, c'est la vue, c'est le toucher qui me donne accès à la Bible. Et je vois aussi dans mon expérience personnelle que quand je lis la Bible et que je trouve un mot que je ne comprends pas, ordinairement, l'esprit ne me dit pas à l'oreille, le mot veut dire, non, je prends le dictionnaire. Ordinairement. Donc je ne vois pas deux domaines qu'on aurait les moyens ordinairement de distinguer en disant ben là c'est intellectuel et puis là c'est spirituel, hein, c'est pas la même chose. Et encore moins dire à quelqu'un, mais toi t'es intellectuel et toi t'es spirituel, toi t'as l'esprit c'est zéro, mais toi c'est 100%, 75%. Et du coup je suis perplexe, pour pas dire autre chose, mais bon, je veux pas être polémique non plus, mais vous avez entendu quand même, devant ceux qui se disent en mesure de faire le distinguo, même si parfois ils peuvent parler fort et avec une certaine autorité, charisme, j'emploie le mot charisme là de manière très, très large. Et pour le coup, par contre, là je vais être plus vif, je dirais que je crois, mais là au sens fort, que ceux qui par principe voudraient mettre l'intelligence hors jeu s'écartent, là pour le coup, de l'enseignement biblique. Parce que l'enseignement biblique, alors je vous invite à faire l'expérience, vraiment, c'est prenez une concordance à la maison, et regardez toutes les, cherchez le mot intelligence et prenez tous les versets qui emploient le mot intelligence. Et regardez ce que la Bible en dit. Eh bien, un verset qui me semble tout à fait résumer l'enseignement biblique, c'est le suivant. Dieu, nous savons que le Fils de Dieu est venu et que Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Si vous prenez une concordance, alors ça dépend des versions, mais j'ai regardé un peu rapidement sur ordinateur avant, j'avais fait par le passé, mais là j'ai regardé un petit peu vite, je trouve dans mon ordinateur, qui est très très fort, trouve 136 fois le mot intelligence dans la Bible, et sauf erreur, j'ai regardé un peu vite, mais dans 134 cas, le mot intelligence est utilisé de manière positive. Dieu reproche à son peuple, vous manquez d'intelligence. Donc du coup, dites-moi, si vous me dites, écoutez, moi je ne veux pas me prendre la tête, j'accepte, pas de problème. Dites-moi, je suis paresseux, j'accepte. Dites-moi, je suis à court d'arguments, je ne sais pas comment répondre là, pas de problème. Dites-moi même, j'ai l'air d'un abruti parce que je devrais savoir quoi répondre, mais je ne sais pas quoi répondre, pas de problème. Dites-moi, je suis ignorant, pas de problème. Mais dites-moi, là tu raisonnes trop et le Saint-Esprit il a pris la porte, là j'accepte plus. Voilà ce que je crois. Je passe à pourquoi je le crois. Et du coup, je vous propose de reprendre les textes que j'ai lus tout à l'heure. Alors ce sont des exemples parce qu'ils me semblent éloquents de ce qu'on trouverait aussi ailleurs. Donc voilà, j'ai pris deux exemples pour pas tout balayer. Le récit de la Pentecôte, dont il y a là un extrait, me semble tout à fait représentatif de ce qu'on trouverait ailleurs. Parce que pour le coup, alors c'est pas un endroit où on peut se dire, mais est-ce que l'Esprit était là ou est-ce que l'Esprit n'était pas là? C'est la Pentecôte, l'Esprit arrive là, pour le coup, en force, si je peux employer ce langage. Et en puissance, ça je peux l'employer, ce langage. Donc pour le coup, je vois un récit où des personnes étaient remplies de l'Esprit. Et je vois un homme, ici, Pierre, qui déjà s'exprime dans une langue qu'il a apprise vraisemblablement par des processus tout à fait ordinaires. Il a grandi dans une famille, tout le monde parlait hébreu sans doute. Eh bien, il a appris, comme on apprend, papa, maman, tata. Voilà. Un homme qui vraisemblablement, alors je ne peux pas le prouver, mais vraisemblablement est renvoyé à sa mémoire, il cite un psaume, donc je fais l'hypothèse qu'il avait une certaine familiarité du psaume. Et peut-être même qui a réfléchi à ce qui se passait au moment où l'Esprit l'habitait, et puis donc qui est renvoyé ou qui se renvoie lui-même au psaume, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, qui va citer un psaume, et qui comprend, engagé tout entier qu'il est dans son corps, dans son intellect, dans ses pensées, et probablement, enfin là, même pas probablement, boosté par le Saint-Esprit, mais qui comprend que ce psaume parle de Jésus. En effet, dit-il, le psaume dit, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. C'est David qui parle et qui dit je. Donc on peut penser en lisant le psaume, mais ça concerne David, c'est David qui parle de son espérance. C'est logique. Tu ne laisseras pas ton serviteur, c'est une phrase parallèle à la première, ça veut dire la même chose. Ton serviteur, le serviteur, c'est ici, c'est David. Tu ne me laisseras pas me décomposer dans la tombe. Mais voilà, dit Pierre. Oups, oui, c'est les jeux. Mais Pierre dit, un problème, c'est que David, il est toujours dans la tombe. On sait où il est son tombeau. On sait quand on va au cimetière, où est le tombeau de David. Donc ça colle pas. Le psaume dit ça, mais on pense que ça concerne David, mais ça colle pas, parce que David, il est resté dans la tombe, il y est encore. Donc il conclut simplement, le jeu dont parle le psaume, c'est pas David. Pierre dit, ça visait le Messie. Ça vise Jésus, Jésus ressuscité. Ça c'est pour comprendre le texte, mais remarquez qu'en m'y arrêtant, quand je m'y arrête, je reconstitue le raisonnement logique de Pierre. Donc Pierre déploie un raisonnement logique. Donc autrement dit, il ne leur dit pas, vive Jésus. Qu'est-ce qui se passe là? Ben c'est le Saint-Esprit, vive Jésus, alléluia! Et le Saint-Esprit touche tout le monde. et on se convertit direct. C'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Pierre déploie un raisonnement logique. Il fait entendre au moyen de sa voix physique, qui s'adresse à des personnes qui se servent de leurs oreilles physiques, un raisonnement logique qui s'adresse aussi à l'intelligence de ceux qui écoutent. Et là, pour le coup, personne n'osera lui dire « Mais bon, tout ça, c'est du blabla, quoi. C'est de la logique, c'est de la logique humaine. Oui, bon, on peut comprendre, mais c'est pas ça. L'important, c'est pas ça. » Parce que là, pour le coup, c'est habité par l'esprit que Pierre dit ce qu'il dit. Et il s'adresse à des... En tout cas, je sais pas comment lui, ça c'est, il a compris ça, mais il essaie de le faire comprendre au moyen d'une réflexion. Et je crois qu'il faut, j'aboutis pour ma part à me dire que ce texte comme d'autres, il illustre ce qu'on appellerait une logique spirituelle. Parce que je vois Pierre le faire ici, je vois Paul le faire quand dans les, quand vous lisez les lettres, vous prenez la tête, hein, excusez-moi, moi Romain, j'ai beaucoup de mal. Pour la première partie du texte où il explique ce qu'a fait le Christ, et il explique, il cite des versets pour prouver ce qu'il dit. Donc il dit pas c'est juste comme ça et puis c'est bon, quoi. Non, il essaie d'analyser, d'expliquer. C'est frappant même dans les lettres de Paul. Toute une première partie, il explique ce que Christ a fait, et on arrive au bout d'un certain temps, pour la lettre aux Romains, c'est à la fin du chapitre 11, début du chapitre 12, « Je vous exhorte donc, c'est le donc, j'ai dit tout ça, donc je vous exhorte à présenter vos corps comme un sacrifice vivant et agréable. » Il y a une logique de cause à effet. Et il tire les conséquences pour les chrétiens. Et dans l'occurrence, j'ai pas du tout pensé avant, mais c'est au renouvellement de votre intelligence. C'est Romains 12, c'est le moment où ça passe. C'est Romains 12, 1 et 2 là. Là-dessus. Donc Paul écrit, il écrit déjà Paul. Il appelle ses correspondants à le lire, et puis à réfléchir et à peser les choses. Et il donne des arguments. Et Jésus aussi fait la même chose. Voilà, bon, je pourrais le développer, mais et je crois qu'en fait, c'est pas surprenant, parce que ce Jésus auquel nous croyons, ben, il est appelé de la façon suivante, il est appelé le Logos. Alors ça, c'est le mot logique en français, mais il vient du mot Logos. Ça veut pas dire que Dieu est rationnel et uniquement rationnel, etc. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, ça fait partie de son être. Je passe au second texte, du coup. Les gens de Bérée, au niveau de leur réception, eux, ils entendent Paul prêcher, et quand on leur dit ben, « c'est Jésus dont la Bible parlait », eh bien ils entrent dans un processus de vérification. Ils prennent la Bible, ils prennent la vie de Jésus, ce qu'ils ont entendu d'elle, et ils voient si ça correspond ou si ça correspond pas. Et en tout cas, on les voit faire ça. Peut-être qu'ils ont prié en disant ben, « Seigneur, si c'est vrai, ben, montre-le nous à l'intérieur, là, montre peut-être. » Mais même s'ils avaient prié comme ça, donc déjà le texte ne dit pas, mais même s'ils étaient dans cette attitude de prière, ben, on voit qu'ils ne sont pas restés les bras ballants, si je puis dire, recueillis les yeux fermés en se disant « J'attends quelque chose. » Non. Ils ont déroulé des rouleaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, c'était en rouleau. Les rouleaux matériels du texte biblique, avec leurs doigts, avec leur corps, ils ont engagé leur intelligence, ils ont réfléchi, ils ont fait des comparaisons, et l'esprit. Ce n'est pas dit dans le texte, mais je suis prêt à croire que l'esprit a accompagné cela. Et en tout cas, l'esprit nous le raconte dans ce texte. Voilà pourquoi je suis amené à dire ce que je crois. Donc je pourrais l'étayer d'autres passages, mais je crois que ça va suffire pour aujourd'hui, pour les textes. Voilà donc, je crois, ce que j'appellerais le modèle ordinaire de l'action d'esprit pour ce qui concerne le lecteur. Et c'est un modèle, si je peux employer ce langage, d'action de l'esprit au moyen de gestes finalement très, très ordinaires, des processus qui nous sont très, très ordinaires. J'ajouterai en même temps que si nous ne les cultivons pas, la Bible ne va pas s'ouvrir toute seule sur votre chevet le matin. Non, non. Puis c'est pas en regardant la Bible de l'extérieur comme ça que tout d'un coup vous allez entendre Ordinairement, le Seigneur vous dire ce qui est écrit dedans. Non, mais il faut l'ouvrir, il faut le lire. Donc du coup, je crois que le modèle, un petit peu un modèle du style, ben, l'action du Saint-Esprit ordinaire, c'est que il y a des lettres de feu dans ma Bible. Je crois que c'est au mieux la description des exceptions. Et en tout cas, du coup, ça, je me permets de dire que celui qui soupirerait après cela, comme quelque chose d'ordinaire, me semble désirer pour sa vie chrétienne des choses qui semblent davantage, de mon point de vue, de l'ordre du fantasme, et non pas de la vie chrétienne ordinaire, normale. Et j'aurais même envie de dire que si on voulait résumer l'action de l'esprit à ces choses inhabituelles, j'aurais envie de dire, ce Dieu-là me fait un peu peur, parce que mais je le trouve trop petit. Un Dieu qui se limiterait à, de temps en temps, nous faire, quelque chose qui ressort et qui nous... C'est trop petit, Dieu est plus grand que ça, de mon point de vue. Mais bon, je vous demande pas d'être forcément absolument d'accord. Donc je crois pas, mais derrière se joue quelque chose, je ne crois pas à cette espèce de coupure de principe qui a habité toute l'histoire chrétienne, une coupure de principe entre le matériel et le spirituel. Je crois en un Dieu qui traverse toute notre existence. Et pour l'illustrer, mais sur complètement autre chose, mais ça me semble un peu analogue, donc du coup je prends cet exemple. Assemblée générale d'église, c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Je suis gêné, pour ma part, quand on dira oui, il y a d'un côté l'AG, en particulier les comptes ou les travaux, et puis, bon, mais ça c'est le matériel, et puis il y a le spirituel. Comme si c'était... Et j'ai envie de dire, mais au nom de quoi? Au nom de quoi penser, au nom de quoi dire que les comptes ou que les travaux, c'est pas du spirituel? Au nom de quoi? Là encore, j'ai envie de dire, dites-moi, c'est fastidieux. Ça me gave, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'accepte, je confirme et je signe, et même j'ai même signé avant vous. Demandez au cours d'une AG, pour une AG, à ceux qui ont envie de discuter des détails techniques, que ce soit sur la comptabilité, que ce soit sur les travaux, de le faire autant que possible en comité restreint, je signe avec vous. Mais dites-moi, c'est vraiment pas spirituel. Là, je regrette, mais là, pour le coup, je signe pas. Je crois en un Dieu qui traverse la vie humaine. Et c'était frappant, ce texte de 1 Corinthiens 10. Tout ce que vous faites, qu'il s'agisse de manger ou de boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc les lieux les plus communs de notre vie. L'apôtre Paul, il voit du lien avec la gloire de Dieu. Du coup, je crois en un Dieu qui porte l'illettré. Je crois en un Dieu qui porte l'érudit, et puis tous ceux qui sont entre les deux, qui porte le balayeur, qui porte le paysan, qui porte le chef d'entreprise. Il porte le grand spécialiste de science dans son labo, qui est en prise avec lui, qui porte l'artiste dans tout ce qui compose ses actes et leur réalité. Je crois en un Saint-Esprit qui s'articule à notre intériorité, potentiellement. Je vais le dire autrement, je ne l'exclus pas par principe de ces domaines-là, d'aucun des domaines qui composent notre existence. Et je ne crois pas de même à un espèce de Dieu qui habiterait nos cultes du dimanche matin. Là, le Seigneur est parmi nous, et puis quand on aura passé la porte, c'est bon, quoi. On passe dans le monde profane. Ça, c'est ce que, je vais le dire comme ça, c'est ce que le diable peut-être voudrait nous faire croire, pour le coup. C'est ce que la pensée séculière peut nous faire croire et dire. Je regrette, je ne signe pas ça. Je crois en un Dieu qui traverse notre quotidien, même notre quotidien morne, dans toutes ses habitudes, dans toute son ordinaire et sa banalité. Un Dieu qui se donne dans la méditation ordinaire de la Bible, même si il arrive peut-être parfois, souvent ou pas souvent, ou beaucoup ou pas beaucoup, même si je ne ressens rien ou si je ne ressentais rien. Mes frères, mes sœurs, c'est ce que je crois. Et je voudrais juste prier, prier, en disant que l'Esprit continue à vous habiter, même si s'avérait qu'une partie de mes propositions était fausse, mais que l'Esprit, de toute façon, vous habite, vous éclaire, vous donne de méditer ça, de débattre de ça, qu'il continue à vous porter, qu'il continue à nourrir votre désir et votre soif de Dieu, qu'il nourrisse votre méditation ordinaire de sa parole.